Ce lundi 19 juillet 2010, nous nous penchons sur la gestion des ressources minières de la RDC. Notons qu'à Nitouri, en province orientale, de plus en plus, il s'observe un grand engouement ces derniers jours dans une carrière à Niarambe, en territoire des Mahadi. C'est à une vingtaine de kilomètres au sud-est des Mahadi, centre non loin de la frontière ougandaise. Dans cette carrière se trouverait du coltan et selon les trésors. Donc, des centaines de personnes y travaillent déjà, plusieurs dizaines de tonnes ont même déjà été extraites et stockées. À cela s'ajoutent d'autres gisements des différents minerais parsemés ça et là à travers le territoire national. Nous en parlons avec vous pour savoir la situation des ressources minières chez vous. La RDC, avec toutes ses potentialités, est classée parmi les pays les plus pauvres au monde. Comment recevez-vous la découverte de ces nouveaux gisements du coltan? Que faut-il faire pour que les richesses de la RDC profitent réellement à la population? Vos réactions, témoignages, points de vue et propositions sont les bienvenus. Nous aurons au téléphone des experts dans les domaines miniers avec qui nous allons partager ces sujets. Cette émission est produite par toute l'équipe Marie-Chantal Lumba, assistée de Nicole Ngaka, et Jean-Claude Estiala est à la mise en onde, et Pierrot et la Méjou pour la présence. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs. Par internet, ca@radiooffati.net.
Bonjour à tous. Nous parlons aux ressources minières de la RDC et leur impact sur la vie quotidienne de la population. Avant de vous donner la parole, permettez-nous que nous puissions vous donner d'une manière brève la distribution des ressources minières par province. Le diamant se trouve dans le de Kassai, dans le Bandundu, à l'Équateur, en province orientale. L'or se trouve en province orientale, au Maniema, au Katanga, au Bakongo, au Nord Kivu, au Sud Kivu et Équateur. Le cuivre se trouve au Katanga, l'étain est au Katanga, au Nord Kivu, au Sud Kivu, au Maniema. Le colombo tantalite, appelé communément coltan, se trouve au Nord Kivu, Sud Kivu, Katanga, Maniema et maintenant en province orientale. Les bauxites est au Bakongo, le fer est à Banali, au Katanga, à Luebo et au Kasai oriental. Le manganèse se trouve au Katanga et au Bakongo, le charbon est au Katanga, le pétrole dans les bassins et côtiers des Moanda en exploitation et la cuvette centrale Ituri, Bandundu, là où il y a les indices. Les gaz méthane au niveau du lac Kivu, les schistes bitumés se trouvent en Vuzi dans le Bas-Congo, les cobaltés au Katanga. Notons que la carte géologique générale de la RDC la plus récente a été publiée en 1976 par le Bureau français de recherche géologique et minière BRMG. On peut alors estimer que les réserves réelles sont nettement supérieures aux réserves aujourd'hui connues. Comment ça se passe chez vous et que faut-il faire pour que toutes ces ressources minières citées puissent profiter à la population, nous en parlons avec vous. Votre point de vue nous intéresse dans cette émission. Appelez-nous au 081 890 63 15. Envoyez-nous également votre point de vue par mail à ca@radiocapu.net. Albert, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Albert. Nous parlons de ressources minières de la RDC qui sont parsemées ça et là à travers le pays. Que faut-il faire, Albert, pour que ces ressources minières puissent profiter à la population?
Oui, effectivement, je vous remercie d'abord pour m'avoir aidé à participer à cette émission. Moi, précisément, je vis à Tshikapa, où vous savez très bien que les diamants font partie des ressources mineures dans notre pays. Mm-hmm. Et justement, c'est le ministère de Mines qui est censé gérer toutes les ressources minières du pays. Mais à Tshikapa, là où je vis, je suis, il y a un désordre total dans par la population locale de participer effectivement à la ressource minière, par exemple, du mouvement de terre. Il y a une problématique très très sérieuse au point que nous avons cherché un peu à trouver des solutions au niveau local pour que la population locale puisse vraiment avoir accès facile aux ressources minières. C'est toujours des problèmes.
Oui, Albert, vous parlez d'un désordre total à Tshikapa en ce qui concerne les ressources minières. Les désordres se trouvent à quel niveau?
Au niveau que vous trouverez qu'il n'y a pas d'abord, premièrement, le périmètre qui sont libres pour que les artisans puissent avoir accès à exploiter librement le périmètre, l'action libre. Tous les périmètres ont été vendus. Au point que même ceux qui en ont eu, par exemple, des permis de recherche, ils ont transformé les permis de recherche en permis d'exploitation. Dans le sens qu'ils recherchent les trésors dans les carrières. au point qu'il n'y a pas de périmètres qui sont libres pour l'exploitation des diamants par les environs, par les autochtones.
Bon, voilà, merci Albert. Si on vous résume en quelques mots, à ce qu'il n'y a pas la grande difficulté, c'est que ceux qui ont acheté des concessions d'exploitation minière ne laissent pas la place aux créateurs, aux exploitants artisanaux pour se débrouiller, et d'autres permis de recherche ont été transformés directement en permis d'exploitation. Merci, vous êtes ici à Kinshasa, mais vous avez donné les cas de Chikafa au Cap Occidental. Nous avons en ligne Monsieur François Zekouye, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général du bureau d'études minières et environnementales dénommé Environmental Mining and Construction Service. Ça c'est en anglais. Nous sommes très heureux de vous avoir sur les antennes. Nous parlons de ressources minières de la RDC et comment ces ressources peuvent profiter à la population. Au début de cette émission, nous avons essayé de dresser un tableau de la répartition de ressources minières à travers le pays. Une liste, bien sûr, qui peut être encore complétée parce qu'il y a beaucoup qu'on peut encore découvrir. Par rapport d'abord au nouveau jugement de coltan à Mahagi et les autres jugements à travers les pays, quelle est votre réaction d'emblée avant d'entrer en profondeur de notre sujet?
Oui, je crois personnellement que les ressources minières peuvent être un moteur de développement et peuvent avoir un effet d'entraînement sur beaucoup d'autres secteurs, notamment les secteurs agricoles, le secteur des transports, le secteur pétrolier et consorts. Simplement, il faut que le secteur minier soit bien encadré pour que, d'une part, les entreprises minières qui viennent travailler au Congo puissent faire des bénéfices et respectent leurs responsabilités sociales vis-à-vis des communautés locales. D'autre part, il faudrait que les zones qui ont été dites affectées à l'artisanat, parce qu'il y en a, il y a 194 zones que les classes minières a réservées pour les questions artisanales minières, puissent être réellement étudiées et que les conditions de travail soient faites de telle manière que les artisans soient en mesure d'exploiter ces zones. Et de cette manière-là, qu'on sépare les zones pour l'activité industrielle et les zones pour l'activité artisanale, parce que les populations locales tiennent encore à avoir une mainmise sur l'activité minière un peu partout dans les pays. Mais si on n'arrive pas à faire une réelle démarcation entre ces deux secteurs, il sera difficile d'avoir un climat de paix d'abord, parce que ce qu'on remarque, ce qu'on a vu à Chikapa, c'est qu'il y a des populations qui travaillent dans des zones qui sont actuellement consacrées à l'activité industrielle et d'affaires de conflit. Donc, cette démarcation et l'encadrement des artisans par différents organismes pour les rendre plus efficaces et travailler comme des PME, en ayant des outils de travail qui rendent le travail un peu moins difficile, peut permettre à ce que le secteur minier artisanal puisse contribuer d'une certaine manière aux revenus des populations locales, mais aussi le fait que les entreprises industrielles sont sécurisées du point de vue juridique, parce que aujourd'hui, il y a un cas qui continue à faire couler beaucoup d'entre les salifs, les entreprises qui obtiennent des titres miniers, qui investissent avec des engins industriels des grands coûts, et qui, subitement, demain et après-demain, l'État congolais veut résilier les contrats, où on nous évoque que les unités qui existaient sur le terrain étaient détentaires au moment où personne n'a jamais réclamé les titres. Les sécurités juridiques peuvent freiner l'élan pour que les investisseurs viennent et que l'industrie puisse pouvoir contribuer au développement du pays.
François Zébouillon, on vous garde en ligne parce qu'il y a autant de questions qu'il faudrait auxquelles il faut des réponses par rapport à tout ce que vous avez évoqué. Mais on vous retrouve dans quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
François Zekouye, en parlant bien sûr de l'exploitation artisanale telle que le la manière dont le secteur est organisé actuellement, est-ce que vous vous rendez compte vraiment que cela peut profiter réellement à la population locale, parce que on se demande les créateurs Comment sont-ils sécurisés par rapport à leurs produits? À qui vendent-ils le produit? Quelle est la valeur même du produit tel qu'ils les vendent dans les mines? Comment même le produit qui est acheté auprès des créateurs, des ouvriers artisanaux, le produit est exporté? Quelle est la marge de ce qui revient à l'État? Il y a autant de problèmes. Faudrait-il alors un texte juridique approprié qui doit réglementer clairement le secteur de l'exploitation artisanale pour permettre à ce qu'eux aussi puissent se retrouver, qu'ils soient sécurisés et aussi que l'État puisse avoir des dividendes. Parce que quand on regarde les chiffres, c'est autant d'argent aussi qui passe au nez de l'État par l'exploitation artisanale des minerais.
Tout à fait. En fait, non, le problème n'est pas un problème de législation. La législation existe et reconnaît l'activité artisanale minière au Congo. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que au moment où le cadastre minier a commencé à octroyer des titres miniers, il n'a pas laissé les espaces qui étaient à l'époque exploités par les artisans et qui sont moins difficiles du point de vue technologique pour qu'ils soient exploités correctement. Ça, c'est le premier problème. Parce que les zones qu'on a aujourd'hui consacrées comme zones d'exploitation artisanale sont souvent éloignés des milieux de vie de cette population. Mm-hmm. Ce qui fait qu'il y a une étude d'ailleurs qui est en cours dans laquelle je participe avec le CNUD et le Centre du commerce international pour voir est-ce que ces zones sont viables pour que les artisans y travaillent. Parce que tant qu'il y aura les conflits entre les industriels et les artisans, il n'y aura pas une paix et donc il n'y aura pas une activité organisée. Parce qu'on ne peut pas organiser l'artisanat dans une concession appartenant à un tiers, ça va être une activité illégale. Mm-hmm. À moins qu'il y ait une entente entre les industriels et les artisans pour que les zones qui peuvent être exploitées manuellement ou semi-manuellement soient consacrées aux artisans, mais qu'il y ait un accord entre les deux.
Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm.
Pour que l'artisanat puisse être organisé correctement, il faudrait donc que les zones consacrées à l'artisanat soient des zones qui soient techniquement possibles pour l'activité artisanale. Mmh. Parler des problèmes des bénéfices. Bien évidemment, pour que les populations locales qui sont dans l'artisanat puissent tirer profit, il faudrait qu'il y ait une première transformation. Ou certainement, pour ne pas parler de transformation, c'est-à-dire, par exemple, dans le domaine de la cafetière, au nord Kivu, si l'on dose des artisans des petits moyens de lavage des minéraux pour que l'on puisse exporter que des minéraux contenant des métaux, ça pourrait permettre à ce qu'il y ait
une valeur, oui.
La situation actuelle. Mmh. Voilà, c'est une valeur ajoutée.
Ah,
donc, mais cela demande que les artisans soient organisés en coopérative au terme de la loi et qu'ils bénéficient d'un premier appui des moyens financiers pour qu'après, ils puissent voler les propres ailes, une fois qu'ils sont encadrés, parce qu'ils travaillent de façon isolée aujourd'hui, et les associations qui les encadrent sont souvent les associations de négociants, qui étirent plus profit que les populations locales,
voilà,
qui sont les artisans.
Ok, il y a Zobo qui nous appelle de Dungu, en province orientale, Norbert et Takanagon vous donne la parole. Zobo, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, Biro.
Nous parlons de ressources minières aujourd'hui. Et quelle est la situation des ressources minières en province orientale, à Dungu principalement? Est-ce que vous avez des minéraux que vous exploitez à Dungu?
Oui. Et justement, c'est par rapport à la découverte de la source de coltan à Mahagi.
Mm-hmm.
Je tiens à vous rappeler que ici chez moi, en province orientale, plus précisément à 125 km de Dungu, plus précisément à Bangati, et surtout dans la localité de Makusa, il y a le coltan qui est là. Vous allez me demander surtout si la source de mon information, je vous dis, ce n'est pas par une étude très approfondie, mais les indigènes et les exploitants artisanaux ont découvert, il y a de cela plus de 10 ans, cette source de coltan, ils ont exploité et ils fondaient sur le marché d'Ariwara, mais cela leur apportait une petite somme, là ils ont fait d'exploiter, il y a de cela plus longtemps.
Voilà, Nzobo, mais s'il faudrait que ces coltans puissent profiter vraiment à cette population, qu'est-ce que vous proposez en quelques mots?
pour que coltan de Bangadi et surtout les territoires de Bungu puissent profiter à la population, moi je demanderais à notre gouvernement de chercher à signer les accords sur l'exploitation minière avec des partenaires en paix, je peux dire sérieux, et surtout intégrer la population locale à cette exploitation. Donc.
Merci Ndobo, nous allons au centre du pays, à Kananda Norbert, vous êtes en ligne, bonjour. Norbert, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio, Fatih ainsi que les auditeurs. Quand vous avez parlé là, vous avez soulevé un point qui est vraiment capital en ce qui concerne la RDC. Vous savez, Kiro, moi je suis avec vous au niveau de Mbujimayi, où les diamants étaient exploités. Pendant les temps coloniaux, la province de Kasaï orientale était considérée donc capitale des diamants au monde, dans le monde entier. Maintenant, aujourd'hui, je vous dis bien qu'en faire Mbujimayi, ce n'est pas ce qui était auparavant. Et là, vous allez me dire. Comment on peut améliorer ça? Donc, du fait, il faut aussi le problème, comme l'invité vient de le dire, il faut qu'on cherche un peu les outils de travail. Faut que les travailleurs, là, je veux dire, avant de travailler, vous savez, on doit ne pas manger. Bon, du fait, c'est aussi un problème de. Ça concerne notre pays. Donc, quand on travaille, il y a même les trésors qui s'immergent dans des pilons un peu, c'est un peu piquant vraiment. Donc, moi je trouve qu'on doit chercher d'abord les outils de travail, et par après, on doit d'abord payer ceux-là qui travaillent.
Bon, ça, oui, Norbert, là vous faites allusion à la MIBA parce que c'est l'entreprise publique qui a exploité, qui a produit les diamants au Kasaï oriental depuis des décennies. Votre souci, c'est qu'on puisse renouveler l'outil de travail, qu'on organise l'entreprise, qu'on paye ceux qui sont en train d'y travailler pour que le diamant puisse être exploité comme il fallait et que cela ait des retombées sur la population. En bref, c'est ça votre souci.
Oui, c'est ça qui est la
mèche. Merci beaucoup Norbert, vous êtes à Kananga. Victoire, vous êtes à Kalimi, au Katanga, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute Victoire. Quels sont les minerais que les gens exploitent actuellement à Kalimi?
À Kalimi, les minerais qui sont exploités, c'est les coupes de substance. Non, malheureusement, c'est l'exploitation artisanale. Je sens des carrières remplies de coltan. Mais on exploite ça avec les mains. Ce que je veux dire, si ça pourrait être facile, que notre gouvernement puisse vraiment vendre nos carrières avec des machines. Il faut qu'il y ait des machines pour exploiter nos carrières. Et là, nous trouverons, il y aura l'évolution de l'économie. La plupart de notre pays Congo, il y a des carrières, il y a des équipements qui ne sont pas exploités. Nous ne pouvons pas attendre seulement que les blancs viennent de nous exploiter. Au cas où nous sommes intelligents, nous raisonnons plus que eux parfois, mais il faut que nous attendions que les blancs viennent de l'Europe pour exploiter.
Merci Victoire. Il y a le coltan qui est exploité d'une manière artisanale à Kalimi. Merci de votre point de vue. Nous allons donner la parole à notre invité tout à l'heure.
Parole aux auditeurs.
Monsieur François Zekouye, vous avez suivi les auditeurs. Les problèmes du coltan revient. Peut-être que vous allez aider les auditeurs à comprendre d'abord le coltan parce qu'on en parle tellement et son utilité sur les plans technologique parce qu'on en parle beaucoup, mais on se rend plus compte que le coltan qui est aujourd'hui une grande source de fonds est plus exploité d'une manière artisanale. Il n'y a pas encore d'investissement au niveau de pouvoir public dans ce qui concerne la modernisation d'exploitation du coltan. Quel est votre point de vue? Et expliquez aussi aux auditeurs le rôle de ces minéraux.
Oui, en fait, le coltan, c'est un minéraux stratégique, hautement stratégique, parce que il intervient dans ce que nous utilisons tous aujourd'hui, dans les mémoires des téléphones cellulaires, dans les ordinateurs portables. Imaginez l'ampleur qu'a les téléphones aujourd'hui, et donc gérer le coltan, c'est gérer la communication du monde aujourd'hui à travers les cellulaires. Mais revenons sur la question de l'attribution des titres miniers aux Européens plutôt qu'aux Congolais. En fait, la loi minière reconnaît à tout citoyen congolais ou non congolais, personne physique ou morale, le droit de demander un titre minier. Et le cadastre minier accorde au premier demandeur le titre. Donc, si les Congolais sont avertis et qu'ils connaissent la présence d'un gisement minier quelconque, si tu dis coltan, des cassiteries, des cuivres, de l'or ou des diamants, s'ils sont les premiers à l'avoir demandé, ils seront les premiers à l'obtenir. Mais comme l'a dit un autre interlocuteur, c'est qu'il faudrait de la technologie. On veut bien demander, beaucoup de Congolais ont demandé des permis de recherche, mais ils n'ont jamais transformé en permis d'exploitation. Il faut des moyens, parce que les faisons minières existent des grands moyens. Donc, ce que nous pouvons attendre du secteur minier, c'est qu'il y ait des industriels qui puissent les exploiter et apporter des revenus par les taxes, par la redevance minière, par les obligations sociales qui sont reconnues dans les codes miniers, mais en même temps, là où l'exploitation artisanale peut être réalisée, que l'on puisse consacrer à l'exploitation artisanale minière, de sorte que les populations locales puissent exploiter et tirer des ressources sur la partie qui peut leur être laissée. Et ça, c'est un effort qui doit être réussi, je crois, avec le ministère des Mines, pour que dorénavant, on obtienne des zones qui soient propices à l'exploitation artisanale, mais que les ressources industrielles continuent dans notre pays et qu'ils génèrent les ressources qu'on attend de cette activité.
Oui, mais François Zécouillé, quand on regarde le mécanisme que l'État, en principe, devait mettre en place pour générer les recettes, vous avez d'ailleurs évoqué tout cela, les taxes sur les jugements, vous avez évoqué les droits d'exploitation, les impôts sur les bénéfices, les participations publiques. Aussi, tout cela réélu. Est-ce que vous vous rendez compte que vraiment il y a une transparence dans la gestion de toute cette chaîne, que ce soit de l'exploitation à l'exportation, aux redevances même dues à l'État? Est-ce qu'il y a une transparence qui peut permettre enfin que ces lois soient bénéfiques à toute la population?
Les efforts doivent être fournis encore. Je ne peux pas dire que c'est totalement transparent. Mais je sens que le gouvernement fournit des efforts pour atteindre cette transparence. Mais il faut aussi qu'on se dise la vérité. Il y a très peu d'entreprises minières qui ont obtenu des titres de recherche qui sont passées à l'exploitation aujourd'hui. Vous pouvez vous rendre compte, par exemple, dans la province orientale, il n'y a aucune entreprise qui est en phase d'exploitation. Pourtant, il y a des ressources minières fort importantes à ce niveau. Les entreprises qui évoluent sont en phase de construction, donc on ne peut pas attendre grand-chose à ce jour de l'exploitation minière de la province orientale, mais dans une année ou deux, on pourrait espérer qu'il y ait des taxes. Pour que ça aille, c'est la MIBA qui est en train de fonctionner comme entreprise étatique. Il y a des entreprises qui ont pris des titres de recherche, mais bien évidemment, parfois, il y en a qui trichent. Qui, au lieu de faire la recherche, font des droits d'exploitation. Ça, c'est des situations que le gouvernement doit regarder pour effectivement que les recettes entrent dans la caisse de l'État. Aujourd'hui, il n'y a que la province du Katanga avec les cuivres qui arrive à donner des contributions significatives et une seule entreprise a réussi à faire des performances extraordinaires de la société frontière qui a donné 55 millions à la caisse de l'État, et malheureusement qui est menacée d'être fermée suite à des situations que très peu de Congolais arrivent à comprendre.
Merci beaucoup, monsieur François. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes directeur général du Bureau d'études minières et environnementales. Merci de nous avoir accordé ces 25 minutes dans l'émission Parole aux auditeurs.
C'est moi qui vous remercie de nous donner l'occasion de m'exprimer auprès de mes frères congolais sur la situation de secteur minier.
Nous avons en ligne Martin qui nous appelle de Kinshasa, Didas qui est à Kaminan et Jean-Pierre Mouteba qui va aussi nous donner son point de vue. Lui, il est le président du conseil consultatif de l'initiative pour la transparence dans la gestion des industries extractives. Mais lisons d'abord ces deux mails. Nous avons honorable Odiane Doulé qui nous écrit de Kisangani en province orientale, bien sûr, difficile à découverte de nouveaux des coltons à Magui, mais pas du tout un événement. On a toujours découvert des gisements, mais ils ne profitent nullement à la population congolaise, ni moins à l'État congolais, mais plutôt aux gouvernants à travers des contrats léonins. Ainsi, j'invite la société civile à jouer pleinement son rôle afin que ces gisements servent au développement du coin et des conditions de vie de la population congolaise en général et celle des Magui en particulier. Les cours des tribunaux sont invités à jouer le rôle qui est le leur. Diakwanga, qui nous écrit des Magui en province orientale, dit ceci, le gouvernement congolais est en train de négliger la richesse de cette partie de son territoire. Dans cette contrée, il n'y a pas seulement du coltan, mais aussi le pétrole et autres minéraux. Curieusement, la RDC ne s'en soucie participent au bénéfice des Ougandais qui en profitent en imposant parfois les prix, ce qui n'arrange pas la population des cinq coins du pays. Nous allons donner la parole à Martin et Bidas qui est à Kamina et nous allons aussi prendre juste après eux notre invité, notre deuxième invité, Jean-Pierre Moutéba. Martin, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup au capi de nous donner la parole.
Allez-y,
je voudrais d'abord donner un principe fondamental pour les auditeurs et pour nous-mêmes. Les pays les plus développés de la planète n'ont pas de société d'État dans le secteur minier. Principalement, il faudrait que l'État comprenne que le développement ne viendra que par le secteur privé. Et que les États les plus riches, pour arriver à encourager les secteurs privés, il y a certains préalables. C'est premièrement, avoir une très bonne administration minière et une très bonne administration fiscale, et avoir un très bon format des affaires. C'est ce qui va faire que les privés, les grands privés, peuvent venir en République au sud du Congo. Principalement, vous savez qu'un auditeur a dit qu'en 1960, Lima était la capitale mondiale du diamant. C'est parce qu'à l'époque, la colonie avait, après l'indépendance, il y avait une très très bonne administration qui permettait à l'État de recouvrir ses droits. Et la question principale que vous avez posée en rapport avec les dividendes de l'État ne peut être résolue que par une très bonne administration, comme je venais de le dire tout à l'heure, et la répartition des revenus entre l'État et les ETD, par ricochet, la population pourra, à ce moment-là, bénéficier directement de ce qui est exploité dans les sous-sols sur lesquels ils sont en train de vivre. Et puis, le troisième point que je voulais relever ici, c'est le manque de mise en application de toutes les lois et tous les textes, toutes les législations en rapport avec le secteur minier et hydrocarbures consorts.
Voilà, merci beaucoup, Martin. Didas, vous êtes à Kamina au Katanga. Bonjour, Didas.
Bonjour.
Didas, vous êtes en ligne?
Bonjour, monsieur le journaliste.
Didas, on vous écoute.
Oui, je vous écoute.
Oui, allez-y, nous parlons du secteur minier, ce qu'on doit faire pour que ce secteur profite à la population. Quel est votre point de vue?
Ok, j'ai tout simplement une question à poser. Moi, je suis à la province de l'Équateur, spécifiquement à Guadeloupe, à Poma, à Cotacoli. Là-bas, il y a trop de diamants. Trop de diamants exactés, monsieur le journaliste, mais le gouvernement ne s'occupe pas de cette province-là. Si nous constatons aujourd'hui, le province de l'Équateur est trop reculé, alors qu'ils ont des minéraux, le diamant, l'or, tout consort, mais le gouvernement d'aujourd'hui ne veut pas s'occuper de ces gens-là. Et si nous constatons aujourd'hui, il y a les chefs rebelles qui sont passés là à l'Équateur. Ils utilisaient ce qu'ils ont remporté pour chercher à remporter, à trouver des moyens, à faire de la guerre, à combattre. Ils s'approvisionnaient à grâce à tous ces minéraux qui se trouvent à l'Équateur.
Voilà. Et votre souci.
Le gouvernement ne fait rien. La province de l'Équateur reste très reculée. Ne progresse rien.
Voilà, vous dites, votre souci, c'est que le gouvernement ouvre l'œil et qu'il puisse aussi faire des recherches en ce qui concerne les diamants de l'Équateur et l'exploiter au profit de la population. Merci de nous avoir appelés. Nous avons en ligne M. Jean-Pierre Moutéba. Bonjour.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Je voulais dire d'abord par rapport au premier intervenant qui a dit que aucun pays développé ne s'est développé grâce
au secteur public, disons, les grandes entreprises.
C'est pas tout à fait vrai. Parce que le Chili, dont une entreprise a produit 1,8 million de tonnes de cuivre, cette entreprise-là, c'est pas une entreprise privée, c'est une entreprise publique. Donc, notre problème, c'est aussi la mauvaise gestion des entreprises publiques à ceux qui ont été désignés pour des raisons soit d'appartenance politique, soit pour des raisons de relations de famille, des pays et autres. Donc, ça, c'est un premier problème qu'il faut relever. Par rapport aux amis de la province orientale, je veux dire d'emblée, c'est la RDC, comme vient de le dire le dernier intervenant, est extrêmement riche en beaucoup de produits, donc potentiellement riche en beaucoup de produits. Donc, aujourd'hui, ici, le Katanga a été soumis à des recherches par notamment les colonisateurs. Ce n'est pas parce que le seul, la province du Katanga, a des richesses. Donc, toutes les provinces aujourd'hui, il est démontré que beaucoup de provinces ont des richesses énormes, et lesquelles richesses doivent faire l'objet des études, de la recherche, et aussi pour que nous puissions voir dans quelle mesure comment ça les exploiter. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous ne devons pas tout exploiter. Il y a la génération actuelle, la génération future. D'ailleurs, nous avons constaté, nous, à la société civile, la génération actuelle est en train de signer des mauvais contrats, de dilapider les biens qui ne nous appartiennent pas seulement, mais qui appartiennent aussi aux citoyens. Nous pensons qu'il faut laisser des gisements vierges pour que les populations futures aussi puissent en profiter. Ça, c'est le problème.
Alors,
pour ce qui est précisément de la Colombo-Tantalite, si on a découvert la maille, c'est une chose. Mais il faut comprendre que la Colombo-Tantalite, telle que nous l'avons, que ce soit dans le nord Kivu, le sud, et même le nord du Katanga, c'est la Colombo-Tantalite qui est riche en aussi d'autres produits, tels que les nobium, tels que l'argent et autres produits. Et souvent, quand nous négocions la vente, nous vendons la Colombo-Tantal, mais nous ne vendons pas les nobium, l'argent, qui parfois sont même à un pourcentage très élevé dans les produits naturels. Donc, nous avons beaucoup de problèmes de ce genre-là, qu'il faudrait analyser, il faudrait mettre en place une politique du gouvernement. Et donc, il faudrait beaucoup de choses, beaucoup de travail avant de pouvoir exploiter de manière désordonnée ce que ça fait.
Ok, Jean-Pierre Moutéba, avant de prendre Joël qui est à Mahagi et Clémence qui est à Kanango-Kassovo occidental, vous êtes le président du conseil consultatif de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans la gestion des industries extractives. Vous militez beaucoup plus pour qu'il y ait la transparence, effectivement. Est-ce que depuis que vous avez commencé à mener les démarches à sensibiliser que la RDC a même adhéré à cette initiative, vous vous rendez compte qu'il y a vraiment la transparence en sursaut en ce qui concerne la déclaration de bénéfices des entreprises qui exploitent le secteur minier? Parce que s'il n'y a pas une transparence en tout cela, la population ne peut pas bénéficier. Quels sont les résultats depuis que vous avez amorcé cette initiative?
Bon, je dirais que l'initiative, c'est d'abord un processus. Nous sommes dans une initiative qui commence à se mettre en place progressivement, mais difficilement aussi. Il faut comprendre que aujourd'hui les entreprises ont publié, mais ce n'est que la partie de l'iceberg qui est visible. Donc nous considérons, nous, ce que les entreprises ont publié, c'est un dixième ou un vingtième de ce qu'elles auraient payé à l'État. Et donc le travail reste à faire. Il faudrait d'abord que l'État mette en place un task force qui va aller sur terrain pour vérifier d'abord les écarts qui ont été constatés entre les déclarations des entreprises et les déclarations des structures de l'État d'une part, et d'autre part, vérifier si ce que les entreprises ont déclaré avoir payé, c'est ce qu'elles devraient payer par rapport à la production, par rapport, n'est-ce pas, à la fiscalité, la fiscalité minière, par rapport à un certain nombre de choses. Parce que nous avons des éléments, nous avons des informations, des documents qui prouvent que ce que les entreprises ont payé, c'est vraiment la partie visible, mais sinon le gros est détourné complètement. Mais c'est un processus, nous sommes en train de nous battre pour que cela continue à être beaucoup plus transparent. Ce n'est pas une affaire d'une journée, d'une année ou bon. Mais donc c'est un problème sur lequel nous sommes en train de travailler.
Jean-Pierre Moutéba, on vous garde en ligne parce qu'il y a Joël qui est à Mag et Clément Sakananga. Joël, vous êtes en ligne, bonjour. Joël, vous êtes en ligne? Là, on va aller au centre du pays, à Kananga, au Kassai occidental. Clémence, vous êtes en ligne?
Bonjour.
Et bonjour, Clémence. Vous êtes la première dame qui intervient dans cette émission. Nous parlons des minerais de la RDC. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça profite à la population? Le Kassai occidental, le diamant, il y a l'or, je crois bien, il y a Louisa et d'autres choses. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela puisse vous profiter, vous, particulièrement à Kananga?
Bon, moi, je pense d'abord qu'il faut qu'il y ait une transparence dans le marché, puisque nous remarquons que la chaîne se passe entre les creuseurs et les trafiquants. Ce qui fait que l'argent obtenu passe toujours dans les mains des expatriés, ça ne profite pas à la population. Pour qu'il y ait beaucoup plus, que ça profite à l'intérêt général, il faut d'abord qu'il y ait plus une réglementation rigoureuse et la transparence et beaucoup plus de contrôle.
Il faut une réglementation rigoureuse, hein, la transparence aussi en ce qui concerne le marché, comment ça se déroule. Merci beaucoup Clémence, vous êtes à Kanango-Kassai occidental. Je crois maintenant que Joël, vous êtes en ligne. Joël, vous êtes à Mahagi, en province orientale. Joël, bonjour. Joël, vous êtes en ligne maintenant. Mais Joël, on vous écoute. Hein. Nous parlons de ce qu'il faut faire pour que les minéraux, par exemple, qui sont en maille, puissent vous profiter. Quel est votre point de vue?
Mon point de vue sur ce sujet est d'abord, je commence par manifester mes regrets. Malgré les totalités de la RDC, nous sommes toujours classés parmi les pays pauvres endettés. Ça fait un peu du mal parce que vous savez, si aujourd'hui le gouvernement congolais parvient à gérer ses ressources d'une façon organisée, notre pays pouvait même être parmi les top de l'Afrique et pourquoi pas même du monde. Ça, c'est encore mon regret. Sur les soldats découverts en territoire de Mali, pour nous, peuple de territoire de Mali, ce n'est d'abord pas être surpris parce que nous le savions bien que notre territoire a aussi beaucoup de potentialité. En dehors de ce constat-là, il y a le grand salon de l'époque qui paraissait à la fin de Mobutu, qui parlait qu'il y a la territoire de Mali, le fer, il y a le diamant, l'or, le pétrole. Mais ce que nous regrettons, c'est quoi? Aujourd'hui, les gens ont commencé à exploiter de façon artisanale les contrats de Nyerambe. Mais cela, est-ce que ça va nous profiter? Car déjà sur le terrain, les informations que nous avons à notre possession, les gens commencent à vendre 1 kg de contrats à 6 000 kg, qui n'équivalent même pas $3 américains. Personne ne connaît le prix du contrat sur le marché international. Même la RDC ne fait pas effort de s'occuper de tout cet terrain-là. Et cela profiterait peut-être à la République ougandaise. Et surtout que ce genre d'exploitation se trouve presque à la frontière. Moi, je ne pense pas que les voies de la sécurité parviendraient d'une façon plus claire à faire empêcher que nous ne prenions pas à l'Ouganda. Je soutiens que nous entendons qui seront même des premiers producteurs de conseils pour faire que ça, c'est justement la chose. Mon problème en est que il faut que le gouvernement prenne conscience. Même faire appel à des hommes d'affaires nationaux et internationaux pour qu'ils viennent sur terrain eux-mêmes s'occuper de cette exploitation, même si ce n'est pas fait par des individus, mais de façon que, même si les individus offrent cela à tout moment, qu'ils vendent à des sociétés qui ont des renommées, afin que les statistiques sur le plan du contrat profitent à la RDC.
Merci. Et voilà, merci Joël, vous êtes à Maragui. Nous prenons le dernier auditeur de cette série avant de remettre la parole à Jean-Pierre Mouteba. Mboui, vous êtes à Kambov, au Katanga, bonjour.
Oui, bonjour mon frère.
Vous avez suivi les uns et les autres par rapport à ce qu'il faut faire hein, pour que les minéraux, les ressources minières de la RDC profitent à la population. Les uns ont proposé que l'État puisse vraiment assurer la réglementation et beaucoup d'autres propositions. Vous, quel est votre point de vue à ce niveau du débat?
Oui, en voulant réagir concernant ce sujet, j'aimerais d'abord demander à nous que notre gouvernement pense aussi aux populations locales qui effectuent leurs activités dans le carré. Il faut que le gouvernement juge d'abord avant de signer un contrat avec les investisseurs qui viennent investir seulement le moment où les grésiers ont découvert le minéré, ils viennent maintenant signer le contrat avec le gouvernement pour investir dans notre pays. Et puis, j'aimerais aussi demander à ces investisseurs qui viennent investir dans notre pays d'apporter aussi le matériel pouvant les aider à sonder aussi, découvrir le minéré. Et après avoir découvert ce minéré, qu'ils aient maintenant au gouvernement signer le contrat d'exploiter le minéré, afin que la population locale, la population autochtone, profite aussi de ce minéré pour se développer. Et j'aimerais d'abord que le gouvernement pense également pour la population qui effectue les activités de pêche artisanale dans le pêche artisanal qui n'est pas respecté dans le secteur de l'huile. Dans le secteur de l'huile. En tout cas, le pêche artisanal n'est pas respecté.
Merci
la population.
Merci beaucoup.
Dans des conditions qui ne sont pas tellement favorables.
Merci beaucoup, Mboui. On vous a suivi. Vous avez posé toutes ces préoccupations au pouvoir public, à l'État. Donc, on vous remet la parole, Jean-Pierre Mouteba. Les auditeurs ont eu leur point de vue qu'ils ont avancé dans cette émission. Vous allez compléter sur leurs préoccupations aussi. Mais je vais aussi ajouter deux petites préoccupations préoccupation, c'est par rapport aux responsabilités des entreprises vis-à-vis de communautés locales et même dans la passation de tous ces marchés, dans le poids des contrats. Quelle doit en principe être la part des communautés locales, n'est-ce pas, dans tout cela? Est-ce qu'elles peuvent être impliquées dans les débats au préalable avant qu'une entreprise puisse venir sur terrain? Et le problème aussi, la grande difficulté, c'est au niveau aujourd'hui du traitement de tous ces minerais qui sortent pour aller à l'extérieur, la part qui l'État perd par le fait qu'il n'y a pas de traitement, et les bruits s'en va, mais on ne sait pas quelle est la vraie valeur, comment tout cela peut être réglé, et par rapport aux préoccupations des auditeurs, on vous écoute.
Merci bien. Je veux dire d'abord que le conseil exécutif d'avant, donc avant le nouveau code minier, il était dit précisément que les entreprises exécutent un certain nombre de construisent des infrastructures et tout, selon le programme du conseil exécutif. Mmh. Et dans le nouveau code minier, il est dit plutôt dans les études d'impact environnemental que l'entreprise doit faire son étude en consultant la population et en proposant dans son étude un certain nombre de réalisations qu'elle doit réaliser au profit des populations. Et donc, cela se fait dans l'étude d'impact environnemental. Mais si nous comparons les lois, la loi de 81 et la loi actuelle, le code minier, dans le code minier, ces différentes responsabilités ne sont pas tout à fait précises de manière assez claire pour que les entreprises les discutent aujourd'hui de ce qu'elles doivent faire. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez vers une entreprise, elle vous renvoie tout de suite au gouvernement qui doit construire des écoles, qui doit construire des hôpitaux, qui doit faire ceci et cela, parce que cela n'est pas dit clairement dans le code minier par rapport à leurs responsabilités vis-à-vis des communautés. Mmh. Mais cela rentre dans l'étude d'impact environnemental qui, généralement, n'est même pas réalisée au moment où l'entreprise a commencé à exercer ou à exercer. Donc ça, c'est déjà un premier problème par rapport à cela. Les responsabilités des entreprises, en fait, vis-à-vis de la communauté, sont assez nombreuses. Quand nous lisons la documentation au niveau international, telles que les principes directeurs de l'OCDE, telles que les normes des Nations Unies pour les entreprises multinationales, telles que notamment l'initiative de transparence par rapport à ces critères et principes. Donc l'entreprise a un certain nombre de responsabilités vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis des populations environnantes. Et ces responsabilités vont du respect des droits de l'homme, vont des droits des travailleurs, des droits socio-économiques tels que l'éducation, la santé, l'accès à l'eau, ainsi de suite. Et notamment, aujourd'hui, on le voit de plus en plus au Katanga, où les entreprises sont en conflit par rapport à leur concurrence dans un secteur tel que le secteur pétrolier et même le secteur minier. Vous avez appris que ça ne se fait toujours le même, veut arracher à KMT, n'est-ce pas, les usines de colonie. Donc, ça, c'est des questions qui, n'est-ce pas, relèvent de ces responsabilités des entreprises vis-à-vis de la population. Vous avez vu, d'ailleurs, en 2006, certaines entreprises ont été remerciées par des partis politiques pour avoir financé l'implantation de ces partis à travers le pays. Mmh. C'est des choses, donc, que les entreprises n'ont pas l'obligation de s'impliquer dans la politique d'un pays. Mais dans notre pays, l'une des entreprises, au Katanga notamment, avait été remerciée par un parti politique. Ce qui montre que les entreprises chez nous marchent sur leurs responsabilités au niveau international. Elles financent des partis politiques, elles font de la concurrence malveillante vis-à-vis des autres entreprises dans les secteurs d'activité. Donc ça, c'est des responsabilités des entreprises que nous avons, nous, à la société civile, pris la décision de pouvoir vulgariser, de pouvoir disséminer à travers le pays. Et donc, c'est quelque chose que la population va savoir. Prenez le cas de Fungurume au Katanga. Une cité de 80 000 personnes, mais il y a à peine 4-5 lits pour les accouchements. Si bien que sur 10 enfants qui naissent à Fungurume, 3 meurent pour par manque de soins au niveau de la naissance. Donc nous avons un problème réel. Alors qu'à côté, il y a une grande entreprise qui va bientôt produire 400 000 tonnes. Donc nous avons un problème réel. Mais si les Congolais ne comprennent pas que cette entreprise-là a l'obligation de pouvoir permettre à la population à côté d'accéder aux soins de santé, d'accéder à l'eau potable, d'accéder à un certain nombre, n'est-ce pas, d'aisances liées, n'est-ce pas, à la civilisation qu'apporte l'entreprise, nous avons réellement des problèmes. Et puis nous ne pouvons pas compter sur le gouvernement aujourd'hui. L'administration est très faible. Vous pouvez imaginer
un contrôleur ou un agent de l'environnement qui va contrôler une entreprise sur la pollution éventuelle. Mais il va sur terrain avec un carnet indique. Il va prendre note sur la pollution. Est-ce que la pollution peut se constater par un carnet? Donc il y a des problèmes.
Voilà,
donc l'administration n'a pas de moyens. L'administration n'est pas
formée
pour ça. L'administration manque énormément de choses. Donc c'est toutes ces choses-là pour lesquelles nous tous, population, société civile, entreprise et gouvernement, nous devons regarder en face et essayer de trouver des solutions palliatives pour que la situation s'améliore sur le terrain et que la population finalement trouve son compte par rapport à l'exploitation des richesses aussi nombreuses, diversifiées et immenses contre notre pays.
Merci beaucoup Jean-Pierre Moteba. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes président du Conseil consultatif de l'initiative pour la transparence dans la gestion des industries extractives étiées. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes dans l'émission Parole aux auditeurs. Et parole aux auditeurs dans cette dernière partie, parce qu'on va bientôt terminer l'émission, nous parlons bien sûr de richesses, les ressources minières de la RDC. Nous en avons décrit depuis le début de cette émission, partout où elles se trouvent. Que faut-il faire pour que ces ressources minières puissent profiter à la population? Vos points de vue sont les bienvenus, comme les deux derniers auditeurs qui sont en ligne, Amar qui est ici à Kinshasa, Kamba qui est à l'Ikassi dans le Katanga. Vous avez tous deux minutes par rapport à votre point de vue sur ce qu'il faut faire pour que les minerais de la RDC puissent profiter réellement à la population. Amar, on commence avec vous, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour, on vous écoute.
Oui, bonjour, c'est Omar.
C'est Omar, on vous écoute alors Omar.
Oui, j'appelle à partir de Kinshasa.
Mm-hmm.
Oui, la question qui a été posée, c'est celle de savoir comment les minerais devaient profiter aux populations.
Mm-hmm.
Et moi, j'aimerais parler spécialement à propos du diamant.
Allez-y.
Je suis originaire de la province du Kassai occidental et je vais seulement commencer par un petit exemple que nous avons vécu. C'est-à-dire, dans le diamant au Kassai occidental, il n'y a pas des entreprises qui exploitent. La quasi-totalité du diamant exploité là-bas, c'est fait de façon artisanale.
Mm-hmm.
Et nous avons seulement le phénomène des acheteurs. Et les acheteurs qui devaient normalement rester à Kinshasa, attendre que les autochtones leur amènent du diamant et acheter ici.
Mm-hmm.
C'est ainsi que la population peut bénéficier de quelques pourcentages, donc, quand ils viennent revendre ces diamants à Kinshasa. Mais le comble est que, depuis un certain temps, on parle du cause des miniers et ce cause-là est vraiment en défaveur de la population. Parce que depuis qu'on a commencé à parler du cause des miniers, ceux qui exploitent artisanalement les diamants en province ne savent pas venir vendre à Kinshasa. Parce que déjà en province, on trouve des Libanais, des Indiens et les autres expatriés qui peuvent acheter sur place. Et entre-temps, il y a aussi des manigances qui font ces expatriés, ils ont d'autres autochtones qui leur donnent des missions pour aller acheter pour leur compte en groupe et ça rend difficile le marché du diamant. C'est-à-dire, pour être plus clair ici, quand un vendeur vient vendre son diamant à Kinshasa ou dans un comptoir, ce n'est pas le vendeur qui fixe les prix, ça c'est connu de tout le monde. C'est plutôt l'acheteur qui nous fixe les prix. Et la réalité aujourd'hui est que quand vous venez avec votre colis de diamants, le vendeur, l'acheteur plutôt, fixe un prix qui ne vous mettra jamais à l'aise. Et vous êtes obligé de rentrer. Et moi je connais, j'ai des oncles qui font ce travail-là. Ils font des tours entre Kikapa, Kananga et Mbujima, ils ne trouvent pas d'acheteur. À Kinshasa d'ailleurs, ils ne viennent plus. Parce que les fameux acheteurs donnent des prix qui ne sont pas acceptables. Et ça crée un cercle vicieux. Et c'est là que on a aujourd'hui au Kassai les enfants qui ne peuvent pas être scolarisés parce que leurs parents ne savent pas vendre les diamants comme ils le faisaient au départ. L'État qui s'enverrait prend l'argent de ceux qui réachètent les diamants à Kinshasa ou en province pour servir la population. Nous ne savons pas par quels moyens il agit pour nous aider en matière de santé ou d'éducation, parce que ce n'est pas finalement l'État qui paye nos soins de santé, ni encore nos études. Mais si on laissait nos parents vendre librement les diamants là, à Kinshasa, donc, je vais dire que.
Omar, on vous a suivi pour vous aider, hein, parce qu'il y a deux auditeurs qui sont en ligne, Kopiamba et Kassamba, pour terminer avec eux, parce qu'il n'y a pas assez de temps, c'est juste 3 minutes qui nous séparent de la fin de l'émission. Mais on vous a suivi, votre souci, c'est qu'il faudrait que les acheteurs, hein, les expatriés puissent rester à la capitale et que les autochtones puissent sécuriser, amener, vendre ça et qu'on leur donne la liberté de fixer les prix ou que les prix soient fixés par les acheteurs. Merci de nous avoir appelé, Omar. Kopiamba, vous êtes à l'Ikassi Okatanga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute parce que là, on n'a qu'une minute et demie à vous accorder pour votre intervention sur ce qu'il faut faire pour que les minéraux puissent profiter à la population.
Ok, merci beaucoup. Je vais me résumer dans quelques minutes tout simplement parce que moi, j'ai suivi les interventions des différents auditeurs. À mon avis, je vais dire que la RDC a une mauvaise politique économique. Cette mauvaise politique économique ne permet pas aux Congolais de profiter de leurs richesses. Parce que nous voyons de temps à autre une politique qui est utilisée, c'est tout simplement l'exportation de matières premières et non des produits finis et manufacturés. Je m'en vais évoquer directement la politique de la République sud-africaine. Parce que quand nous voyons la République sud-africaine, on essaie un peu d'intégrer les ressources minérales dans ces différentes industries pour que les gens puissent profiter. Et quand on intègre les différentes ressources dans les industries locales, le Congolais, c'est-à-dire les agents locaux vont profiter quand même à être engagés, à embaucher quelque chose.
Merci beaucoup, Kopiamba. Merci beaucoup, Kopiamba. En tout cas, on n'a pas moyen d'aller plus loin que ça. Parce qu'on a encore le dernier auditeur, c'est Kassamba qui nous appelle de Bounia. Kassamba, on vous donne aussi juste une minute et demie pour votre intervention et nous permettre de clôturer cette émission.
Oui,
Kassamba, vous êtes en ligne?
Oui, je suis ami, monsieur le journaliste, bonjour.
Et bonjour.
Pour moi, personnellement, je suis très content de cette émission. Je vais vous demander que l'État congolais fasse pour les garder ouverts et sérieux. Les ressources internes sont énormes. Parce que l'État puisse les encadrer afin de donner au bonheur au peuple congolais. Pour tout côté, le contrat de mardi, il n'y a pas que ce contrat-là, il y a aussi le pétrole et le problème de l'utilité aussi l'or. Et il y a le problème de l'énergie qui est le fait de ce qui sont là. Et depuis que nous sommes, je crois que ce temps, l'énergie et le prix de vie qui peut se jamais abîmer en Italie, les centrales, ou dans les autres, qui devraient normalement être réhabilitées afin de permettre l'exploitation efficace. Et sur les sources, les deux centrales ne sont négligées. Donc, le gouvernement congolais du débat, je lui lance un accord avec ce gouvernement pour se regarder d'abord les ressources en besoin et non interrogés.
Merci beaucoup, Kassamba. On termine avec vous. Mais lisons d'abord ces mails de Tony de Bounia. La découverte du coltan dans les territoires des Mahagi n'est pas une merveille car c'est la énième découverte des matières premières au Congo. Il serait bon de corriger ces grands mensonges contenus dans quelques livres de l'éducation nationale déclarant que la RDC est un pays riche en Afrique car c'est contradictoire. L'initiative pays pauvre très endetté. Il y a un adage local dans les dialectes qui dit ceci, les maïs mûrissent abondamment chez un fermier qui manque des dents. C'est la RDC avec sa richesse qui n'est pas qui ne profite pas à la population. Il propose ceci pour terminer les gonds, la gérance de notre sol et les sous-sols à nos bailleurs locaux ou la SEC qui, malgré la précarité des infrastructures, ils construisent tant soit peu notre pays au lieu d'assister au théâtre que le gouvernement au pouvoir nous présente aujourd'hui. Satisfait de leur rémunération, c'est des livres à la végétation en distribuant nos diamants aux pays riches pour leur honneur. On termine avec votre point de vue. Et Tony, vous êtes à Bounia, en province orientale. Et nous disons également merci à François Zekouye qui est intervenu dans cette émission, et Jean-Pierre Moteba, et à tous les auditeurs qui nous ont appelés. Et merci aussi à ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion d'être alignés sur les antennes. On fera de mieux, et à la fois prochaine.